Vous écoutez France Culture.
Bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Marc.
Alors aujourd'hui, l'essai du jour, Alban Bensa, François Pouillon, terrain d'écrivain, littérature et ethnographie chez Anacharsis.
Anacharsis, oui.
Anacharsis, pardon.
Au début de son livre Anthropologie de l'ordinaire, Éric Chauvier cite le savoureux dialogue entre l'anthropologue britannique Evans Pritchard et son informateur, le dénommé Kuol, lors de sa première expédition chez les Nuers au Soudan anglo-égyptien. Tout en esquive et empreint d'agacement réciproque, alors que l'anthropologue cherche à obtenir des informations sur le lignage de son interlocuteur, ce début de conversation au bord de la rivière Nyandung s'achève ainsi. « Nous sommes loups », finit par lâcher l'indigène, à quoi Evans Pritchard rétorque « Je ne t'ai pas demandé le nom de votre tribu, ça je le sais, je t'ai demandé le nom de ton lignage. Et pourquoi veux-tu savoir le nom de mon lignage ?» lui retourne au Kuol. « Je ne veux pas le savoir », répond l'anthropologue visiblement exaspéré. « Alors pourquoi me le demandes-tu ? Donne-moi du tabac. » En évoquant ce dialogue, Evans Pritchard souhaite illustrer ce qu'il appelle le « mauvais esprit nuer » et la façon dont les nuers s'entendent à saboter une enquête. Mais il ne dit rien sur le contexte de cet échange, qui est notamment celui d'une domination coloniale que les Britanniques s'emploient à exercer sur les peuples du sud du pays, qui s'y soumettent de mauvaise grâce. Et surtout, en commentant l'extrait, Éric Chauvier relève que dans le passage de l'expérience vécue à sa transcription, une conversion de l'audible en lisible, et s'agissant en outre d'un livre qui a fait date dans l'histoire de l'anthropologie, on a en quelque sorte retiré le statut d'interlocuteur à celui qui est désigné, selon la terminologie consacrée, comme un informateur. On l'a dépouillé de son contexte d'énonciation et on a dérobé au regard les coulisses de l'enquête. Du coup, on peut s'interroger sur les effets politiques de l'observation. C'est contre cette tendance de l'anthropologie à reconstituer artificiellement des sociétés vivantes, de manière à en faire des objets scientifiques, que s'élèvent, non sans finesse, les différents auteurs de l'ouvrage publié sous la direction d'Alban Bensa et de Fernand Pouillon, lesquels citent le regretté Claude Meillassou et son inoubliable et drôlatique Anthropologie, ça s'écrit P-E-A-U, des Lom-Lom, un article publié dans le journal des anthropologues en 1998, les Lom-Lom qui vivent au fond du bois, B-W-A, et qui sont patagames, fragmentaires, fistulocaux et rétrolinéaires. Il y a bien sûr des contre-exemples aujourd'hui de cette attitude qu'on pourrait citer dans la foulée par exemple de Jeanne Favret-Saada qui s'est impliquée sur son terrain, la sorcellerie dans le bocage normand jusqu'à se faire elle-même jeteuse de sorts, et ça reste entre nous. Et la posture réflexive est de plus en plus fréquente dans les enquêtes, mais l'idée de ces terrains d'écrivains est d'examiner comment les romanciers, lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation, s'entendent à retourner sur eux le scalpel ethnographique et à s'inclure eux-mêmes dans le contexte de l'observation. On peut même leur accorder qu'ils ont une longueur d'avance dans ce domaine et pas forcément par narcissisme. Ainsi, les écrivains réalistes ou naturalistes. La critique génétique a bien exploré les carnets de Zola, observant les milieux sociaux dont il voulait faire l'umwelt de ses romans, de l'univers grouillant du ventre de Paris au monde feutré des grands magasins. Clémentine Gutron analyse le cas Flaubert, qui selon ses propres dires s'est ingurgité 100 volumes sur Carthage pour préparer Salammbô et qui confesse dans sa correspondance être en train de lire un mémoire de 400 pages sur le cyprès pyramidal, parce qu'il y en avait dans la cour du temple d'Astarté. Elle évoque aussi son séjour en Tunisie sur les traces de Carthage et son goût tout relatif pour l'archéologie, qui s'illustre dans le jugement porté sur l'archéologue Botard, rencontré à Jérusalem, un cadavre qui marche, je cite, « un homme en ruine, un homme de ruine dans la ville des ruines, qui a l'air de tout haïr, si ce n'est les morts ». Même souci de la documentation chez Nerval, dont Dominique Casaju évoque le voyage en Orient, et l'on sait qu'il est en partie le résultat de ce parcours immobile et purement livresque. Rosemarie Lagrave aborde l'ethnologie rurale et l'étude de genre dans l'un des romans paysans de George Sand, La petite fadette, dont le souci ethnographique la pousse à retranscrire les parlers locaux. Lamartine, qui a dû porter le vêtement local pour déambuler à Damas et notamment au souk, ce qui était à l'époque une obligation pour les étrangers dans la capitale syrienne. Lamartine se préoccupe également de fournir fournir des documents à l'appui de ses observations, donnant voix au chapitre à ce que les ethnologues appellent le discours indigène. C'est cette réécriture de l'instant ainsi que son voyage au désert qu'analyse Fernand Pouillon. Jackie Assayag, spécialiste de l'Inde, revient sur l'anthropologie politique et fictionnelle de l'Empire des Indes par Kipling, qui décrit cette réalité coloniale à partir de la triple position que lui assurent ses activités administratives, journalistiques et militaires. Une vision réfractée qui va constituer la matière première de ses romans. À l'opposé de Rimbaud, dont l'expérience de l'Abyssinie est le champ clos de sa rupture avec la littérature. Mais c'est peut-être Céline qui révèle le sens de cet engagement dans la réalité de la part de ces écrivains ethnologues. Lui qui affirme dans une lettre « On cherche toujours pourquoi Rimbaud est parti si tôt en Afrique. Je le sais, moi, il en avait assez de tricher. Cervantes n'a pas triché, il a vraiment été aux galères. Barbus est vraiment crevé de la guerre. Cela ne suffit pas, bien sûr, mais il y a une hantise chez le poète de ne plus tricher. » Et puis il y a également donc les cas, mais je ne peux pas détailler, de Virginia Woolf, dont Pierre Bourdieu avait noté la fine sociologie de son propre milieu qu'on peut trouver dans ses romans, et puis évidemment les figures de Montaigne et de Camus.
Voilà donc Alban Bassa, François Pouillon, Terrain d'écrivain, et puis la revue du jour, Siècle 21, littérature et société.
Voilà, alors c'est le numéro 21 de la revue, Siècle 21, un dossier sur la littérature tunisienne contemporaine, préparé par Marilyn Acker et Cécile Oumani. Alors dans ce dossier, Tahar Bekri revient sur l'histoire ancienne et plus récente de la littérature.